Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus long sur la situation des agriculteurs et leur manière de faire leur métier, en tout cas tel que le conçoivent et le vivent les adhérents de la Confédération paysanne. Par ses valeurs et ses convictions, elle se distingue, on va le voir, des deux autres principales organisations, la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats agricoles, et la Coordination rurale. Pour découvrir la Confédération paysanne de l'Hérault, j'ai invité non pas son président, il n'y en a pas, et ça dit déjà quelque chose, mais ses deux porte-parole, Morgane Barra et Olivier Pillet. Morgane Barra et Olivier Pillet, merci d'avoir répondu à mon invitation. Morgane Barra, vous êtes chevrière, c'est plus joli qu'éleveuse de chèvres, à Saint-Étienne-de-Gourgas, non loin de l'Odève, pour ceux qui ne connaissent pas. Outre votre fonction de porte-parole, vous êtes élu au titre de la Confédération, bien sûr, à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Au lieu pays, vous êtes installé à Octon, pas très loin d'ailleurs, du côté de l'Arc du Salagou. Vous êtes viticulteur et oléiculteur. Alors, première question, pour que les auditeurs puissent vous situer, qu'est-ce qui a motivé votre engagement syndical, Olivier Pillet, et plus particulièrement, pourquoi avez-vous rejoint la Confédération paysanne?
Alors, moi, l'engagement syndical est de longue date, puisque quand j'étais étudiant, j'étais déjà dans les syndicats. Mais là, en ce qui concerne l'agriculture, ce qui m'a beaucoup plu dans la conf, c'est le caractère et la revendication altermondialiste, et surtout la notion d'échelle, en fait, qui se retrouve en fait partout, même dans les autres domaines que l'agriculture, la question de la taille des exploitations et donc en fait la remise en cause de l'industrialisation à tout craint.
Et de super exploitation telle qu'on a vu se développer ces dernières années.
Le slogan de la conf, c'est des petites fermes partout.
Très bien. Voilà. Et vous-même, Morgane Barra, quel est le moteur, la motivation de cette démarche?
Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que mes parents étaient déjà à la Confédération paysanne. Ah. J'étais adolescente quand le McDo de Millau a été démonté. Je suis allée jouer du nam-nam sur les glissières d'autoroute à côté de la prison quand José Bové était dedans.
D'accord.
On a occupé une ferme pas loin de chez moi avec la Confédération paysanne. Enfin, voilà, j'ai toujours plus ou moins gravité autour. Après, mon engagement personnel, c'était aussi pour le plaisir de se retrouver avec d'autres agriculteurs avec qui on a la même approche de notre métier et du monde rural, parce que ça va au-delà de l'exercice précis de notre métier. Et se retrouver, enfin faire partie des membres actifs, c'est aussi se retrouver une fois par mois pour essayer de faire avancer les choses et pour confronter nos idées et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans son coin à penser comme on pense et que finalement on est nombreux et nombreuses. Et au-delà de la Confédération paysanne, la CONF fait partie du réseau Via Campesina à l'international. Et quand on regarde ça, on se rend compte qu'on est des millions de paysans dans le monde à avoir la même approche de notre rapport à la terre. Et donc, on se dit que non, on n'est pas un fou isolé de penser comme on pense.
Très bien, voilà qui est clair. Alors, vous le savez, avant que nous parliez des positions de la Confédération paysanne, bref détour, comme d'habitude dans cette émission, au moins pour justifier son titre, à votre tour d'apporter votre part au portrait de la ville brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Donc Morgane Barra, quel est le lieu de Montpellier auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi ?
Moi, j'ai fait mes études à Montpellier, une prépa, puis l'école d'agronomie. Donc, du coup, ça serait plutôt le quartier de l'école d'agro jusqu'aux arceaux et après descendre vers le centre-ville et toutes les petites ruelles où, quand on était étudiant, on allait trouver plein de choses qui plaisent aux étudiants. Des t-shirts rigolos, des sarouels et la rue de l'Aiguillerie m'a laissé un souvenir impérissable.
Très bien. Et vous-même, Olivier?
Alors, moi, c'est le jardin du Pérou pour la vue qu'il offre. Presque à 360 degrés.
Oui, en effet, presque. Puis on voit la campagne, pour le coup, jusqu'au Pic Saint-Loup, là, oui. Très bien. Alors maintenant, quittons la ville pour la campagne. Alors un petit mot de quelques repères pour les auditeurs et auditrices. La Confédération paysanne est depuis 1987 le nouveau nom qui était depuis 1984 celui de FADEA, Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural. Aujourd'hui, vous définissez comme les syndicats pour l'agriculture paysanne et la défense des travailleurs et des travailleuses, emploi, travailleurs, travailleuses. Voilà des mots qui vous caractérisent. Alors, Morgane Barra, en quoi vous distingue-t-il des autres syndicats qui, me semble-t-il, considèrent les agriculteurs comme des patrons ou seulement comme des
alors,
patrons?
Alors, juste une petite précision, oui. La FADEAR et la CONF, c'est pas la FADEAR qui est devenue la CONF.
Ah, oui,
c'est
bah,
deux
c'est
choses différentes. Non, non.
Ah, pas bien
la
compris,
Confédération alors. Paysanne, c'était le syndicat des travailleurs paysans au départ.
Ah,
c'est
oui,
devenu
d'accord.
La Confédération paysanne. La, les ADEAR sont des émanations de la Confédération paysanne qui s'occupent de l'accompagnement à l'installation, de la formation,
d'accord.
etc. C'est une autre structure, c'est une structure cousine, on va dire.
Très
mais
bien.
C'est pas du tout l'un qui est devenu l'autre. L'un a engendré l'autre, alors, la CONF a engendré alors, les FADEAR.
Ceci dit, paysan-travailleur, la dénomination d'origine, qui pour le coup me revient à mémoire, c'est ça qui vous caractérise par rapport à d'autres agriculteurs. Est-ce que c'est un des points saillants là, pour donner à comprendre la manière dont vous vous situez?
La différence avec les autres syndicats, elle est liée aussi un peu, elle est liée à notre approche de l'agriculture et à notre positionnement politique. Parce qu'en fait, les deux autres syndicats dont on entend le plus parler, c'est la coordination rurale qui a une tendance populiste d'extrême droite, on va dire, pour faire court. Donc on ne se retrouve pas sur grand-chose, si ce n'est parfois de brefs constats, mais dès qu'on gratte un petit peu, on n'arrive pas à aller plus loin ensemble. Et après, il y a la FNSEA qui tient le devant de la scène et qui, si on devait rapporter à l'échiquier politique, serait des libéraux de centre-droit, on va dire.
Oui.
Et c'est l'opposition qu'on fait souvent pour schématiser. Ouais, la CONF, c'est les petites fermes et la FNSEA, c'est les gros. Mais ce n'est pas entièrement juste parce qu'il peut y avoir des petits agriculteurs qui se laissent séduire par le discours de la FNSEA en s'y croyant représentés. Je les invite à vraiment analyser vraiment les positions de ce syndicat parce que quelquefois, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais la Confédération paysanne, de son côté, ne représente pas forcément que les petits. Qu'est-ce qu'on appelle petits, en plus ? Les questions d'échelle sont très subjectives en fait. Donc moins que les petits, nous on représente ceux qui vivent avec la terre, qui la travaillent et qui veulent qui veulent travailler avec la terre plutôt que contre elle, plutôt que la maîtriser, etc. Donc on parlera de nos positionnements vis-à-vis de l'écologie, du social, etc. plus tard, mais c'est davantage un positionnement politique qu'une question d'échelle, de taille des exploitations.
Olivier Payet, même manière, en tout cas avec d'autres mots là, pour définir votre positionnement et celui de la Confédération.
Mais oui, la Confédération paysanne, effectivement, c'est par nature, l'agriculture est composée de petits patrons, certes, mais nous, notre syndicat, n'oublie pas également la condition des gens qui travaillent et qui sont salariés dans les exploitations.
D'accord. Ouais. Bon, on voit bien comment ça fait la différence. Alors, pour continuer à situer la Confédération, j'indique qu'elle a adopté en 1998 un document fondateur, la charte de la culture paysanne. Ce document, elle l'a actualisé en 2025. Alors, dans cette nouvelle version, votre critique de l'agriculture industrielle, on l'a évoqué, on y reviendra, persiste. Mais elle est actualisée, cette critique. Et quels sont les éléments du contexte dans lequel l'agriculture se situe, dans son environnement, au sens large, qui vous ont conduit, je dirais, à réécrire, moi en partie, ce document de repère, ce document fondateur?
Personnellement, je ne suis pas assez pointue pour aller dans les différences entre la première et la seconde version, mais sur le fond, l'agriculture paysanne, en fait, c'est... on a voulu faire une charte pour justement mieux définir quelle est notre vision de notre métier et que ça ne soit pas justement qu'une question de gros ou de petit, ou de bio ou de pas bio, etc. C'était une façon de définir ce qui va au-delà de la pratique agricole, mais qui aurait plus à voir avec le tissu rural,
ouais.
Parce qu'en fait, l'agriculture paysanne, c'est redonner aux paysans la maîtrise de son métier pour qu'ils puissent en vivre dignement. Et la maîtrise de son métier, ça peut être aussi par la possibilité de vivre correctement en milieu rural. Donc notre engagement, il déborde un petit peu autour de nous sur toutes les problématiques, d'accès aux soins, de mobilité en zone rurale, d'école rurale,
Le
etc.
territoire qui vous entoure, pour prendre un mot.
On est par ricochet impliqué dans tout ce type de lutte parce que le principe du paysan, c'est que c'est celui qui vit au pays et qui fait vivre le pays. Donc qui s'implique dans le tissu social du monde rural. Et puis on fait partie de la société, donc on suit pas non plus cette espèce de mode qui consisterait à opposer le paysan avec le reste de la société et les vilains urbains qui n'ont rien compris. Les vilains urbains qui n'ont rien compris, c'est nos clients et c'est nos meilleurs soutiens. Donc nous, on a envie de faire partie de la société justement et de s'articuler avec elle pour que les services qu'on lui rend et les services qu'elle nous rend s'équilibrent et qu'on soit un métier parmi les autres qui vivent aussi dignement que les autres.
Donc si je comprends bien, tout le contraire d'une espèce d'isolement, d'entre-soi, de « on est entre nous, ça bouge pas », c'était cette idée de relation avec, comment le mot un peu usé, je le disais là, dans le territoire dans lequel vous travaillez, avec ces différentes composantes humaines, économiques et sociales, c'est ça aussi, cette manière dont vous situez qu'on y...
Je pense que la charte, si c'est une tentative aussi de codifier un peu quels sont nos critères pour définir l'agriculture paysanne et son lien avec le territoire, il n'est pas anodin, puisqu'en fait, on s'aperçoit, si on prend par exemple l'histoire des Gilets jaunes, il a été prouvé que c'était aussi parce qu'il y a la désertification et la disparition des services a créé une situation dans laquelle les gens dans les territoires sont totalement démunis. Et l'agriculture, elle fait vraiment partie d'un ensemble, d'autant plus qu'on est, plus très nombreux à être agriculteurs. Et justement, l'idée, c'est de faire le lien avec toutes les autres composantes de la société, quoi. Et c'est pour ça que la charte de l'agriculture, en fait, elle essaye de codifier tout ça et d'essayer de définir, d'exprimer les pratiques qui nous définissent par secteur, en fait.
Oui, c'est ça.
Et puis du point de vue, si on revient du point de vue agricolo-agricole, la charte de l'agriculture paysanne, en fait, il va s'agir d'avoir des exploitations qui soient à taille humaine, qui aient pour but de faire vivre un maximum de personnes et non pas de concentrer des moyens de production énormes dans les mains d'une seule personne. Ça va être aussi une question de résilience, c'est-à-dire de maîtriser sa filière. On en parlera peut-être plus tard de la commercialisation, mais qu'on ait opté pour de la vente directe ou pour une filière plus longue. La question, c'est de redonner la maîtrise aux paysans de ce qu'il fait, d'où il s'approvisionne, de comment il pratique son métier, de comment il écoule ses produits, toujours avec en sous-main la question du revenu paysan. Donc maîtriser sa filière, c'est aussi maîtriser le revenu qu'on va pouvoir en tirer, mais ça va être aussi au niveau des outils auxquels on a accès, de pouvoir encore une fois les maîtriser. Donc quand on voit qu'à chaque fois qu'on rencontre un problème en agriculture, on nous propose ce qu'on pourrait appeler du technosolutionnisme, on va vous mettre des capteurs partout, des drones, des machins connectés qui vont vous informer de quand est-ce que les bestioles, elles ont trop chaud, trop froid, etc. Ok, très bien, mais en fait, rien ne remplacera le savoir-faire de l'agriculteur qui va aller voir ses bêtes et qui voit très bien comment elles vont. Donc voilà, c'est un peu de redonner le pouvoir aux paysans, de maîtriser son métier, de savoir reconnaître son savoir-faire, reconnaître le fait qu'il sait ce qu'il fait sur son exploitation et lui donner les moyens de savoir ce qu'il fait et de décider en conscience. Donc voilà, pour moi, je le vis un peu, cette histoire d'agriculture paysanne, comme une reprise de pouvoir des paysans sur leur destin.
Voilà, mais en même temps, une espèce de filiation avec des formes d'investissement ou de pratiques de l'agriculture qui sont, même s'il y a une part d'innovation, de modernité, qui perpétuent. Vous avez évoqué la situation des paysans dans le monde et leur proximité. Bon, cette fraternité internationale, ça raconte ça aussi, je dirais, votre manière de penser votre métier, de regarder au-delà du bout du champ, quoi, si j'ose dire.
Bah, oui, on essaye de regarder au-delà du bout du champ, déjà par le caractère internationaliste de la Confédération, mais également dans le domaine technique, en fait, on n'est pas... On voudrait, moi, je voudrais quand même apporter l'accent sur le fait qu'on n'est pas contre l'évolution technologique. Mais
oui, c'est pas une espèce de passéisme ou de regard en arrière.
Il y a technologie et technologie, quoi. Voilà. D'ailleurs, là, la dimension internationale avec l'actualité, là, il y a un petit TP tout à fait intéressant qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est que avec le blocage du détroit d'Ormuz, eh ben, il y a des tas de gens qui n'auront pas d'engrais.
Oui, ça n'a pas été dit parce qu'on a parlé du pétrole et du gaz.
Parce qu'aujourd'hui, on a une agriculture qui n'est pas à l'équilibre avec son système, puisqu'elle va chercher son engrais sous terre. Puis qu'il est extrait du gaz qu'on prend sous terre. Alors que normalement, un engrais, c'est une déjection animale ou un sous-produit azoté ou phosphoré ou ce que vous voulez qu'on utilise. Et donc, en fait, là on voit vraiment la limite du système. C'est-à-dire que quand il est bloqué par un événement ou un jour il sera bloqué par épuisement, hein, parce que du gaz, il n'y en aura plus, ben, il faudra trouver d'autres solutions.
Et donc là, ça, c'est oui, parce que ça peut être beaucoup.
Ça devient un élément qu'on ne maîtrise pas.
Oui.
Quand tout le fonctionnement d'une filière, on en a vu une autre limite l'hiver dernier avec la maladie qu'il y a eu sur les vaches, là, la DNC. Quand des élevages sont établis entièrement sur la base de l'export de jeunes animaux et que tout leur système repose là-dessus. On devient dépendant de l'ouverture des marchés à l'export.
Donc,
et s'il y a une mesure de confinement, comme il y a pu avoir pour l'Hérault, une fois qu'on a été vacciné, interdiction de mouvement, y a beaucoup d'éleveurs qui se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs broutards à l'âge où ils les vendent d'habitude. Donc ils ont été à la merci des grossistes et des maquignons au moment où ils ont voulu se dépêcher de vendre les bêtes qui étaient prêtes vite vite avant qu'on bloque les mouvements. Ils ont dû vendre à des prix beaucoup plus bas que d'habitude. Et puis après, ils se sont retrouvés à devoir garder des bêtes beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Donc, à les nourrir davantage. Donc, à engager des frais pour des animaux qu'au final, ils ne vendront pas forcément plus cher le jour où ce sera rouvert. Parce que là, elles seront plus vieilles que ce qu'elles sont d'habitude. Et donc, elles risquent d'être dépréciées au contraire.
D'accord.
Donc, là, on a vu aussi un système qui est en fait dépendant de ces marchés internationaux. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais rendre aux paysans la maîtrise de ce qu'il fait. On peut être esclave de la technologie, on peut être esclave d'un engrais dont sa terre a besoin. Dans tout un tas de régions, on peut être esclave des marchés internationaux. Dans tout un tas de régions, maintenant, on est esclave non seulement des engrais, mais aussi des pesticides. Parce qu'au bout de plusieurs décennies qu'on en déverse à gogo dans les sols, on a tué toute la vie du sol. Et si on veut continuer d'y faire pousser quoi que ce soit, il faut biberonner ces sols avec des engrais et des pesticides. Pesticides parce qu'ils sont devenus inertes. Donc effectivement, si du jour au lendemain le robinet est coupé, la production se retrouve en difficulté. Et là, il faut toute une remise en question d'une filière. C'est le problème qu'on a par exemple sur la betterave avec les néonicotinoïdes. Ils ne savent pas faire sans parce qu'ils font de la monoculture en conventionnel, je vais même dire en chimie, depuis des décennies. Et que si on veut continuer à faire de la monoculture sur des espaces aussi immenses, avec pas une haie à l'horizon, pas une rotation, ni rien, c'est impossible autrement qu'en chimie. Mais en fait, le problème, c'est pas de remplacer un produit par un autre. C'est de remettre en question cette façon de produire qui, en fait, est délétère pour le sol et est délétère aussi pour l'agriculteur qui se retrouve esclave de ça. Donc nous, ce qu'on réclame à la Confédération paysanne, c'est un accompagnement vers la sortie de ce genre de modèle dans lesquels on considère qu'une partie de la profession a été enfermée par des décennies de conseils agricoles et j'en parle à l'aise vu que j'ai fait une formation d'agronome. Des décennies de conseils qui les ont poussés dans ce système-là, dont maintenant ils se retrouvent prisonniers. Il n'est pas impossible d'en sortir, mais c'est assez difficile, humainement d'abord, parce que s'arrêter pour se regarder pédaler psychologiquement, c'est pas évident, et économiquement ensuite, parce que ce genre de système vous pousse en fait d'une part à l'endettement et d'autre part à un équilibre financier très très précaire qui fait qu'on est toujours sur le fil et que du coup se permettre un pas de côté pour se dire et si j'essayais de faire un peu autrement, c'est très risqué économiquement et quand vous êtes dépendant de la banque, de divers créditeurs et des marchés pour écouler vos produits, eh ben c'est encore plus difficile. Donc il faut un accompagnement. On ne peut pas faire peser sur les épaules du seul agriculteur la responsabilité de changer de modèle.
En tout cas, Olivier Pillet, bon, ce que décrit Morgane, c'est un système qui crée de la dépendance. Et dès qu'il y a une crise comme celle qui a été dite, une situation qui accroît la précarité ou les difficultés, c'est une espèce d'enfermement dans un système dont on voit pas seulement les limites, je vois, mais les dégâts ou les menaces qu'il fait peser sur un grand nombre d'agriculteurs. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ?
Oui, oui, tout à fait. Oui. Oui, je pense que la preuve de la défaillance de ce système n'est plus à faire. Chaque année amène son lot d'exemples et on pourrait les énumérer à l'infini. Simplement, moi je voudrais abonder dans deux sens. Le premier, c'est dans cette quête d'autonomie un peu, j'allais dire, et pour l'agriculteur, je voudrais parler aussi ici aujourd'hui de la mise en danger de l'atelier paysan. L'atelier paysan, c'est une association qui justement visait à amener les agriculteurs vers plus d'indépendance au niveau de leurs outils. Et cette association est mise en danger aujourd'hui par la réduction des crédits.
Des crédits voilà. D'État notamment. Voilà. Mais il y a des crédits européens aussi là, ou en tout cas il y a des crédits d'État.
Non, oui. Je pense que là c'était plutôt des crédits nationaux.
National.
Ouais. Ouais. Et l'autre chose...
Alors, quel était le rôle exact de cette structure ?
En fait, c'est une structure en fait, qui faisait de la formation pour rendre les agriculteurs autonomes au niveau de leur matériel.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, c'est en lien direct avec la technologie, quoi.
Oui, bien sûr.
Voilà.
C'est ne pas, encore une fois, pas être dépendant de la technologie, mais savoir l'utiliser intelligemment, efficacement.
Savoir c'est réparer, ça. Adapter être autonome sur son matériel de culture, voire créer des outils. Il s'est fait beaucoup de choses en petit maraîchage, notamment de création complète d'outils dont les plans sont donnés en open source. Et ce genre d'association accompagne les gens pour apprendre à fabriquer et à adapter ces outils, nos outils à notre usage.
Donc on voit un peu cette idée de conquête de l'autonomie en définitive, de ne pas être un passéiste, d'avancer, de se saisir de l'opportunité que présentent au moins certaines des nouvelles techniques pour les faire vôtres. Alors la question des pesticides a été évoquée, donc le temps tourne, on va passer, mais là aussi pour revenir à votre propre pratique, donc l'un et l'autre, vous êtes comme on dit, bio, bénéficie d'une certification. Ce n'est pas le cas de tous les agriculteurs. Quelle est votre manière de respecter les règles afférentes au bio, Morgane, et puis Olivier complétera, et puis plus généralement, quelle est sur cette position, quelle est la position de la Confédération paysanne sur cette question du bio. Alors, votre exemple ou votre témoignage, en tout cas.
Alors, à titre personnel, j'ai repris avec mon frère et ma belle-sœur les chèvres de nos parents, qui étaient en bio depuis qu'ils sont installés en 89.
Donc, du coup, c'est pas récent, ça.
Donc, du coup, ça aurait été dommage, en dehors de nos convictions personnelles qui nous donnaient envie de continuer, ça aurait quand même été dommage de foutre en l'air 30 ans de bio pour repasser à du conventionnel. Au-delà de ça, de toute façon, pour nous, c'est en élevage, d'autant plus en pastoralisme, là-haut sur le Causse, c'est une façon de travailler qui est logique. Le fait est qu'au sein de ma ferme, on est associé à trois et on a aussi un troupeau de brebis que gère davantage mon frère. Le troupeau de brebis n'est pas dans la certification parce que lui n'avait pas envie de s'embêter avec le contrôle et la certification, tout simplement. En fait, les pratiques qu'il a, toutes les terres sont en bio, vu que les chèvres sont susceptibles de pâturer partout. Le troupeau de chèvres est en bio parce que moi, je veux bien m'occuper de noter tout ce qu'il y a à noter à côté, parce qu'en gros, c'est ça le seul. Plus qu'il y a nos pratiques de fait sont bio. Après, pour être certifié, faut que je le note et que je puisse le montrer au contrôleur. Voilà, c'est à peu près ça que ça change. Après, en pratique, le troupeau de brebis, je me suis amusée à le regarder plusieurs fois parce que j'ai été contrôleuse bio dans une vie passée. Il coche les cases. C'est juste qu'il a pas envie de cocher les cases son cahier pour le montrer au contrôleur.
On comprend le distinguo entre.
Mais après, on a beaucoup d'adhérents qui ne sont pas en bio à la conf et j'allais dire. Enfin, à mon sens, le bio, c'est une question d'engagement personnel et presque commercial. T'as certaines pratiques. Est-ce que t'as envie d'un certificat qui prouve au monde que tu as ces pratiques-là ? Ça permet de faire le distinguo entre, si vous les écoutez, n'importe quel agriculteur, il va vous dire « Mais moi, je suis presque bio parce que des produits, j'en mets pas beaucoup. » Donc, moi, je trouve quand même utile d'avoir une sorte de... un certificat, c'est pas une sorte de... qui disent « Bon, bah là, ça a été vérifié que oui, il dit pas des bêtises. » Mais après, c'est le choix de chacun. Et pour moi, c'est beaucoup plus important la démarche qu'on va avoir en termes de pratique que d'être dans un certificat ou pas dans un certificat. Après, à la conf, pour revenir plus général, on défend une sortie progressive des pesticides et un accompagnement vers la sortie des pesticides. Après, le bio, c'est pas que la question des pesticides.
Bien sûr.
Mais de par cette charte de l'agriculture paysanne, en fait, on défend des pratiques qui sont... pérennes aussi, qui sont durables. Et pour qu'elles soient pérennes et durables, ça veut dire qu'elles soient non destructrices de notre environnement, non destructrices de nos moyens de production, donc de notre sol, de l'eau, de la ressource avec laquelle on travaille. Et si en plus d'être pas destructrices, elles peuvent même être créatrices en enrichissant les sols, en enrichissant la biodiversité et en rendant les sols plus productifs progressivement, c'est encore mieux. Donc à partir d'un moment, si on adhère à ce genre de démarche, on se retrouve de fait dans une démarche agroécologique qui est cohérente avec la certification bio. Après, le fait de la prendre ou de ne pas la prendre, c'est autre chose.
Alors, Olivier Pillet, de votre côté, comment vous faites du bio dans votre activité, notamment de viticulteur, comment ça se traduit? Voilà,
ça se traduit par le fait que je respecte le cahier des charges de la bio, parce qu'en fait, pour moi, c'était quasiment idéologiquement inévitable.
Ça allait de soi, quoi.
Oui, étant donné que mon ancien métier, j'allais dire pour résumer, consistait à enlever les pesticides qu'il y avait dans l'eau potable. Donc, j'allais pas m'amuser à en mettre moi-même 20 ans plus tard.
Bien sûr.
Voilà. Et d'autre part, ce qui peut paraître évident pour tout le monde ne l'est pas forcément, notamment ce qu'il y a d'agaçant pour les agriculteurs qui le vivent sous la vision d'un contrôle, en fait, c'est que c'est vous, la personne qui essayez de faire un effort pour ne pas polluer, et c'est vous qui avez le travail en plus à faire.
Bien sûr, c'est plus exigeant.
Alors qu'en fait, il est reconnu que ce sont ces produits qui ont des impacts sur la santé.
Il y a une prise en compte de richesse au sens large, à valeur générale, qui concerne tout le monde, toute la société, dans cette contribution au bien commun, si j'ose dire. Ouais. Mais la contrepartie, c'est des efforts, c'est des...
Voilà. Bon, après, ces efforts sont pris en compte par les aides qu'on reçoit. Mais sur le plan psychologique, il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir à être contrôlées, en
bien
fait.
Sûr,
comme ils sont déjà contrôlés sur d'autres choses par ailleurs, ça peut parfois constituer un frein.
Voilà. Bien, alors on poursuit. En mot de la viticulture, quand même, vous le savez, hein, la viticulture, c'est une production très importante dans l'Hérault, même si elle, si elle a baissé.
À une époque, c'était 80% de l'emploi agricole. Je ne sais pas combien il y a en année aujourd'hui, mais...
Bon, il y a une bonne diversification, mais il y a également une crise dont on a vu les effets ces derniers temps, une baisse de la consommation du vin. Comment vous analysez ça et selon vous, quelles sont les voies collectives ou individuelles à emprunter pour dépasser cette situation économiquement et socialement difficile pour la viticulture héraultaise?
Alors, au niveau de la viticulture héraultaise, mais je pense que c'est beaucoup plus large que l'Hérault. Hein, le problème, c'est la valorisation des produits, en fait. Et la revendication principale au niveau de la Conf, c'est d'assurer... un prix rémunérateur pour les viticulteurs, qu'ils soient, j'allais dire, en coopérative ou qu'ils soient à leur compte, en fait.
Donc, c'est quand même le prix d'un consommateur à la rigueur.
C'est-à-dire que la mise sous pression du marché et notamment le rôle que jouent les négociants, en fait, est à revoir, en fait, parce que le prix que perçoit in fine le viticulteur ne couvre pas les frais de production. Hein. Je vous donne un exemple simple. Moi, quand j'ai repris les vignes de mon oncle en 2020, pour 3 hectares, avec la production que j'ai eue cette année-là, j'aurais reçu 1340 euros.
D'accord. Pour une année de travail. Ouais. Quoi.
Sachant que le coût moyen pour s'occuper d'un hectare, c'est 5000 euros.
D'accord, on comprend. Là,
vous voyez, donc déjà, donc moi, j'ai pas eu d'autre choix que de sortir de...
Donc là, il faut, pour faire court, repenser toute la filière.
Complètement, c'est ça. Il faut réguler le marché et notamment également les prix minimums. Nous, on est pour les prix minimums d'entrée. Hein, au niveau de la Confédération Paysanne, on défend la mise en place d'un prix minimum d'entrée sur le marché européen. Pour les produits qui viennent des autres pays, en fait.
Qui sont des pays concurrents, voilà. Oui.
Avec des exigences à la fois environnementales et sociales, pour être sûr que les produits qui rentrent
qu'il n'y a pas de concurrence déloyale, pour le coup.
Et après, actuellement, ce qui fait notre actualité, il y a le problème de l'arrachage, en fait, qui ne couvre quasiment à peine la prime qui est donnée, couvre juste l'arrachage en lui-même, mais ne permet pas de réfléchir à une reconversion que je qualifierais de climatique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire après la vigne, en fait. Et aujourd'hui, on est quand même... Voilà, c'est ça. Après, je ne suis pas non plus dans les petits papiers de tout ce qui se produit au niveau ministériel et tout ça sur l'évolution des cultures, mais force est de constater qu'une fois qu'on a arraché, on est un peu...
Démunis.
Et puis encore une fois, il n'y a pas de vision d'ensemble. Enfin, j'en reviens toujours aux politiques, mais là, en gros, on dit aux gens, quand vous n'en pouvez vraiment plus de ne pas vous payer avec votre métier, en dernier recours, on vous file 4000 balles pour vous payer l'arrachage de vos vignes. Donc ça,
sans vision c'est... du devenir des
voilà.
terres
on vous,
ou
on
du
vous
devenir...
offre la corde en cadeau quoi. Mais il n'y a aucun plan d'avenir de qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces terres qui vont se libérer et puis de lesquelles on arrache, parce qu'en fait on n'a pas trop de viticulteurs, on a peut-être trop de production de vin à la limite, mais d'un côté on file une prime à l'arrachage, d'un autre côté on étend des réseaux d'irrigation pour aller irriguer de la vigne, donc lui faire produire plus pour faire quoi ? Du vin qui va pas se vendre et que derrière on va encore envoyer à la distillation. C'est reculer pour mieux sauter. D'autant plus que quand on étend des réseaux d'irrigation, bah, y a des frais d'aménagement. Même s'il y a des subventions dessus, on l'a vu avec l'extension du réseau du Salagou par exemple, il y avait quand même un reste à charge de 2000 euros par hectare pour l'agriculteur, enfin pour le vigneron. Donc 2000 euros l'hectare, c'est pas tout le monde qui peut le prendre en charge. En sachant pas derrière s'il va y avoir tous les ans de l'eau dans le tuyau et si on va réussir à vendre ce qu'on va produire grâce à cette eau. Donc, et on parle pas des éventuelles clauses qui disent qu'une fois que t'as tiré le tuyau, t'auras plus le droit de faire que de la vigne sur cette parcelle-là. Donc ça t'interdit toute reconversion future. Du coup, à mon sens, il manque une politique agricole un peu réfléchie, un peu d'ensemble et un peu à long terme, parce que là, on a l'impression qu'on réfléchit au jour le jour, mais il serait temps de se poser la question de dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'on va laisser aux jeunes agriculteurs qui s'installent, à leurs enfants, qui va reprendre ces terres, qui va avoir envie de les reprendre, pour mettre quoi dessus ? Comment nourrir les populations de la métropole de Montpellier qui s'étend, de l'arrière-pays aussi ? Voilà, il faut une politique agricole d'ensemble qui réfléchisse un peu loin.
Alors, je suis désolé, mais on arrive au bout de l'émission, un peu avec des points de suspension. Là. On a bien vu, je dirais, l'enjeu, hein, la perspective, qui n'est pas simplement celle du quotidien, y compris ici de sécurité, c'est de penser l'avenir de l'agriculture, des agriculteurs. Donc, je vous remercie l'un et l'autre. On n'a pas fait complètement le tour de la question, d'avoir permis aux auditeurs d'avoir quelques points de repère sur ce que vous vivez et surtout sur ce que vous souhaitez. Je vous remercie.
Merci.
Si j'ai une seconde pour un dernier mot, je voudrais juste mentionner l'association des Amis de la Confédération Paysanne. Parce qu'on est un syndicat paysan, on ne peut prendre d'adhérents que d'agriculteurs ayant un statut d'agriculteur. Tous les gens qui ne sont pas agriculteurs et qui se reconnaissent dans notre vision de la société agricole, qui voudraient nous aider à la faire avancer, sont invités à rejoindre les Amis de la Conf. C'est une association, on est le seul syndicat agricole à avoir des amis officiels.
Alors donnez-nous
nous aider.
Une adresse mail ou un contact là-dessus.
Alors, il y a un site internet, Les Amis de la Confédération Paysanne, c'est une association nationale, et quand vous y adhérez, on vous renvoie automatiquement les coordonnées de votre groupe local pour que vous fassiez connaissance avec vos amis les plus proches.
Alors, vous aimez la Confédération, montrez-le. Merci à chacun de vous.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarroch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, un pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.